La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous, je suis Patrick Saporito, faisant partie de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Toulouse Métropole. Une nuit pendant l'été, vous vous souvenez, où il a fait très chaud, ma femme n'arrivait pas à dormir et elle s'est assise dans le jardin pour prendre l'air. Le matin, elle m'a dit qu'elle a observé le ciel étoilé et y a même vu des étoiles filantes. On peut penser quoi de plus banal, mais on peut aussi penser quoi de plus magnifique que ce spectacle. Et on se dit, le roi David aurait sûrement été de son avis. Rien qu'à lire le psaume 8 qui est de sa main. Lisons ensemble dans la Bible Parole de Dieu, le psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Au psaume précédent, David cherchait refuge en Dieu pour se protéger contre ses ennemis. Ici, au psaume 8, plus d'inquiétude, ni d'angoisse, pas de Covid, pas de soucis au quotidien. Même pas de supplication, mais de la louange, rien que de la louange et de l'adoration, du début à la fin. Pas étonnant que ce psaume 8 soit destiné à être chanté puisqu'il s'adresse au chef des chantres. Et effectivement, il a souvent été mis en musique. David commence son psaume par « Éternel notre Seigneur » verset 1. Tout le psaume est une prière collective que tout croyant peut donc s'approprier en tout temps, bon ou mauvais. David choisit de concentrer toutes ses pensées vers la personne et l'œuvre de Dieu, loin de ses soucis bien humains, consignés dans d'autres de ses psaumes. Comme quoi, les psaumes reflètent la vie terrestre, la vraie vie, avec ses soucis, sans se voiler la face, tout en nous invitant à regarder plus haut vers le ciel et à chercher la gloire de Dieu. Alors quelqu'un dira peut-être « Oui, mais Dieu, je ne l'ai jamais vu. » Moi non plus. Ce psaume nous invite à considérer l'homme et la place que Dieu lui a donnée dans la création. Et de ce psaume, il ressort clairement que Dieu a créé le monde pour l'homme et l'homme pour lui. C'est ce que je vous invite à voir en trois points. Donc, premièrement, nous verrons la création qui témoigne à l'homme de son créateur. Deuxièmement, nous verrons l'homme, sa grandeur et sa décadence. Et troisièmement, nous verrons le créateur, si grand, devenu homme dans sa création. Voyons premièrement la création qui témoigne à l'homme de son créateur. Vous vous souvenez le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir ses œuvres qui témoignent de sa personne. La création visible sur terre et dans le ciel renvoie à celui qui l'a faite, à Dieu le créateur. Le ciel est infini. Rien que d'y penser, j'ai vu quelqu'un de ma famille qui se dit athée se sentir mal, avoir le vertige de savoir que le ciel ne s'arrête pas, n'a pas de fin. Et pour cause. Le psaume 19, verset 1 nous dit, je cite, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Fin de citation. Voilà de quoi mettre mal à l'aise un athée convaincu, mais rassurer le croyant sur la grandeur du Créateur. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, nous dit le verset 1 du psaume 8. C'est-à-dire va encore plus haut que le ciel infini, parce que Dieu est au-dessus du monde qu'il a créé et dont nous faisons partie, les humains. Le psaume 8 nous invite donc à louer Dieu, et pour cela David, le psalmiste, nous invite à contempler la création visible, quand il dit, je cite, « Quand je contemple les cieux », verset 3. Il nous invite à lever les yeux et à réfléchir, Qui a créé ces choses? Et pourquoi les a-t-il créées? Et ce qui pousse David à louer Dieu ne se trouve pas uniquement au ciel, mais aussi sur toute la terre, tout près de nous. Notre psaume finit comme il a commencé par cette magnifique louange à Dieu, versets 1 et 9. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Fin de citation. Où trouve-t-on le nom de Dieu? David savait que ce n'était pas seulement en Israël, mais sur toute la terre, qu'on soit croyant ou pas, dans la création visible de Dieu, parce que sa création est sa signature qu'il a laissée aux hommes. Quand tu vois une fourmi, tu peux y lire « signé Dieu ». Quand tu regardes un éléphant, tu peux y lire « signé Dieu ». Quand tu regardes une rose, tu peux y lire « signé Dieu ». Quand tu regardes les Pyrénées, tu peux y lire « signé Dieu ». David, quand il regarde à la personne et l'œuvre de Dieu, s'écrie « magnifique ». Tout le contraire de ce qui est banal, triste. Un même spectacle de la nature peut paraître banal à un non-croyant qui passe devant et magnifique au croyant quand il considère que cela a été créé par Dieu. C'est le regard de la foi qui ne vient pas de l'imaginaire, mais de l'illumination d'un cœur éclairé par Dieu. Et les enfants ont ce regard, et consciemment ou inconsciemment, ils louent Dieu quand ils s'émerveillent devant une simple fourmi ou un énorme éléphant, qu'ils prennent le temps d'observer, ce que font rarement les adultes si pressés de nos jours. Le verset 2 nous le confirme, je cite, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. » Fin de citation. Au sujet des enfants, Jésus a dit aussi, en l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Fin de citation. Savons-nous encore nous étonner à la manière d'un enfant devant la création? Seriez-vous étonné de voir des merles se poser sur votre petite terrasse et s'approcher assez près pour venir manger les croquettes des chats comme nous l'avons vu chez nous? Et nous étions aussi étonnés en voyant des hérissons amateurs des mêmes croquettes venir se servir la nuit tombée. Et quel spectacle en voyant sur notre terrasse deux colonnes de fourmis marchant en parallèle, en sens inverse, une pour aller chercher les miettes de ces mêmes croquettes et l'autre pour les ramener dans leur galerie. La Bible nous invite à observer la création pour nous enseigner. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6, nous dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Fin de citation. Les enfants savent s'émerveiller devant la nature et les animaux en particulier. Et si Dieu avait créé les animaux pour les enfants, c'est tellement mieux de jouer avec de vrais animaux qu'avec des peluches. Quelqu'un d'autre de ma famille et qui aime beaucoup les animaux m'a dit un jour « S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. » Sans le savoir, elle pointait vers le Créateur qu'ils avaient créé. La création tout entière pointe vers Dieu et est là pour nous témoigner de sa puissance, de sa bonté, de son amour pour nous, pour que nous lui rendions grâce et le louions par le langage, ce qui nous différencie des animaux. Mais un athée ne verra pas forcément la signature de Dieu dans un magnifique coucher de soleil, ou un éléphant, ou une fourmi, ou en regardant le ciel étoilé. Et il se demande encore, où est Dieu? Peut-être sur la planète Mars, qui fait aussi partie de la création. Mais il oublie de regarder beaucoup plus près de lui, en fait. Il oublie de se regarder lui-même comme étant une merveille de la création. C'est là que j'aborde mon deuxième point. Voyons maintenant l'homme, sa grandeur et sa décadence. Après avoir créé les animaux le sixième jour, Dieu a terminé sa création par son chef-d'œuvre. L'homme et la femme, qu'il bénit. Voir Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. David avait encore dit au psaume 139, verset 14, je cite, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Fin de citation. Alors pourquoi aller chercher dans des paysages magnifiques alors que nous sommes magnifiques? Quand vous vous regardez vous-même, vous pouvez lire « Signé Dieu qui vous a fait ». Et pourquoi nous a-t-il créés? Eh bien la réponse, elle est dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Fin de citation. Si vous vous demandez pourquoi vous existez, voilà la réponse. Vous existez pour Dieu qui vous a créé. Peut-être ça vous étonne parce que vous vous sentez bien petit par rapport à Dieu, et pour cause. David a le souffle coupé lorsqu'il contemple le ciel et les étoiles, parce qu'ils lui font penser à Dieu. Levons la tête un instant. La lumière parcourt 9500 milliards de kilomètres en une année, et des milliards d'étoiles sont à des milliards d'années-lumière de la Terre. Ça vous étonne ? David était étonné. Si la Terre est un grain de poussière dans l'univers, que dire de l'homme tiré de la Terre ? D'ailleurs, fils de l'homme veut dire aussi fils d'Adam. L'homme est insignifiant. Il y a de quoi se sentir petit. Et pourtant, ce qu'il y a de magnifique, c'est que le Dieu qui est au-dessus des étoiles est aussi le Dieu des fourmis. Et il prend soin de l'homme. Je relis les versets 3 et 4 du psaume 8. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Fin de citation. L'homme, bien que grain de poussière, fragile, mortel, est dans la pensée de Dieu infiniment grand. Dieu pense à chacun d'entre nous. Peut-être vous êtes inquiet face au Covid ou face à l'avenir économique très incertain. Eh bien, sachez que Dieu ne vous oublie pas. Il désire que vous vous tourniez vers lui. Il désire prendre soin de vous parce que même si nous sommes petits, nous avons été créés à son image pour lui. Et le reste de la création témoigne de l'amour qu'il nous porte. Pourquoi Dieu a-t-il créé la végétation, les animaux, les oiseaux et les poissons de la mer et les fourmis ? Eh bien, c'est pour nous, comme un cadeau que Dieu a voulu nous faire. Le jardin où il avait placé Adam et Ève s'appelait Éden, qui signifie « délice ». Dieu a créé l'homme pour lui, et il a créé le monde pour l'homme. Et il nous a fait l'honneur à nous, si petits, de nous confier le reste de sa création si grande, en nous plaçant au-dessus d'elle, pour nous donner gloire et magnificence. Je cite les versets 5 et 6. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Fin de citation. L'homme représente donc la création devant Dieu, à qui il doit rendre compte. Et il représente Dieu devant la création, dont il a reçu le mandat d'en prendre soin. La création gérée avec Dieu aurait pu être une histoire merveilleuse pour l'homme. Mais l'homme a oublié qu'il n'est pas propriétaire de la création de Dieu, juste le gérant. Et il a voulu se passer de Dieu. Ça ne lui suffisait pas d'être au-dessus de toute la création et juste en dessous de Dieu. Non, il a voulu se faire Dieu. C'est l'essence même du péché, depuis Adam et Ève qui ont cru au mensonge de Satan plutôt qu'à Dieu. Je me souviens que mon père m'avait dit une fois quand j'étais enfant, « Rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. » Et ça m'est resté. Le péché a tout gâché et a renversé l'ordre établi par Dieu. L'homme censé dominer sur la création peut se faire aboyer dessus par un chien. Impossible de couronner de gloire et d'honneur l'homme dans son état de pécheur corrompu. D'où vient cette catastrophe écologique qui frappe notre planète ? Eh bien de vouloir gérer la création de Dieu sans Dieu. D'avoir créé le monde en 6 jours plutôt qu'en un seul montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé le monde de façon distincte et méthodique, selon un ordre précis et chronologique, par séparation pour ce qui est de la lumière et des ténèbres, et de la mer et de la terre, et selon son espèce pour les végétaux et les animaux. Cet ordre de la création contient une perspective morale de ne pas tout mélanger, sinon il y a confusion entre le bien et le mal, entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, parce qu'on enlèverait Dieu le créateur de l'équation. Et on voit bien quelle confusion règne aujourd'hui sur notre planète. Moralement, à vouloir être comme Dieu, l'homme est descendu parfois plus bas que l'animal. Le projet de loi bioéthique n'a rien d'éthique. Il autoriserait l'intégration de cellules humaines dans des embryons d'animaux, faisant de l'embryon humain un objet de laboratoire. En ne se soumettant pas à Dieu, l'homme a acquis son indépendance. Mais à quel prix ? Non seulement au prix de sa vie, mais il a entraîné avec lui la chute de toute la création. Normal, Dieu l'avait établi le responsable au-dessus d'elle. Le sol a été maudit et notre planète est bien malade. Réchauffement climatique, extinction des espèces, ce qui ne fait que confirmer que l'homme a échoué dans son mandat de prendre soin de la création. Alors y a-t-il encore de l'espoir ? Attendons-nous une réponse de Dieu ? J'espère. Si l'homme a oublié Dieu, Dieu lui n'a pas oublié l'homme. Le verset 4 du psaume 8 peut aussi se traduire par « Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu le visites ?» Fin de citation. Je me souviens d'une illustration de l'évangéliste Billy Graham. Supposons que vous vouliez communiquer avec les fourmis, comment vous y prendriez-vous? En vous faisant aussi petit qu'une fourmi, et même en vous faisant vous-même fourmi. Eh bien, Dieu si grand a voulu nous parler à nous si petits. Comment? D'une manière extraordinaire, il nous a vraiment visités. C'est là que j'aborde mon troisième point, le Créateur, si grand devenu homme dans sa création. Relisons le verset 2 du psaume 8. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Fin de citation. Dieu s'est appliqué cette parole à lui-même en devenant aussi petit qu'un homme, se faisant lui-même nourrisson, pour fonder sa gloire, gloire qu'on peut aussi traduire par force. Voilà de quoi nous étonner lorsque l'homme veut montrer sa force par ses muscles, ou qu'un pays veut montrer sa force par son armée. Sans le savoir, David avait prophétisé la venue du Messie. L'évangile de Luc, chapitre 2, versets 11 et 12, nous disent « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Fin de citation. Ce qui avait suscité l'admiration chez David, eh bien, l'avait aussi suscité chez l'apôtre Paul, qui a dit, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Fin de citation. Voilà la réponse de Dieu au péché de l'homme. Puisque l'homme a voulu se faire Dieu, eh bien Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et puisque l'homme a voulu prendre la place de Dieu, eh bien Dieu a pris la place de l'homme. Comment? Lorsqu'il a pris la punition de nos fautes sur la croix à notre place pour rendre possible notre pardon. Voilà de quoi fermer la bouche à l'ennemi et au vindicatif. Le vindicatif, c'est celui qui n'aspire qu'à se venger. Êtes-vous étonné de cela? Savons-nous encore nous étonner en entendant l'évangile de Jésus-Christ? Il y a de quoi. Le meilleur commentaire de la Bible étant la Bible elle-même, les versets 4 à 6 du psaume 8 sont cités dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux et s'appliquent à Jésus. Je lirai l'Épître aux Hébreux chapitre 2 versets 6 à 9. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Fin de citation. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, a accepté de se mettre pour un temps inférieur aux anges, nous pouvons retrouver ce qu'Adam avait perdu, notre juste place en dessous de Dieu et au-dessus de la création. Et plus que cela, Dieu a couronné de gloire et d'honneur son propre Fils Jésus de par sa mort et sa résurrection pour nous, pour nous faire partager sa gloire et son honneur. Le péché veut nous rendre égal à Dieu sans Dieu. Dieu nous propose de nous faire partager la gloire de son Fils avec lui. Que désirer de plus? Il y a un vieil adage qui dit « Si une pierre tombe sur un œuf, il se casse. Et si c'est l'œuf qui tombe sur la pierre, il se casse aussi. » Dieu a donné à son Fils le nom au-dessus de tous les autres noms. Je cite l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Fin de citation. Une chose est sûre, le monde entier sera un jour sous les pieds de Jésus, dans le sens que tout reprendra sa place normale. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez invoquer son nom à haute voix, pas comme une formule magique, mais avec un cœur sincère, dans la foi et la repentance, avec cette promesse que je prends de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Fin de citation. Et puisqu'un Dieu si grand a pu penser à nous si petits et nous visiter, eh bien, n'oublions pas de prendre soin des petits, des méprisés, des oubliés, de ceux dont la société fait peu de cas, des personnes âgées si souvent laissées de côté, des enfants bien sûr. C'est avec une bonne raison que le psalmiste conclut son psaume comme il a commencé. Je relis le verset 9. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Fin de citation. Parce que la terre a été honorée par la présence du Rédempteur qui nous a visités. Lorsque la communion avec notre Créateur est rétablie en Jésus-Christ, tout sur la terre et dans le ciel devient nouveau et magnifique. De quoi s'émerveiller déjà, maintenant.
Psaume 8, verset 3.